Okay, thank you very much. I clearly listened to your deliberations, especially, but sir, by way of introduction, I'm Davestus James from the Center for Peace Building and Democracy. Foundation for Human Rights and Democracy in Liberia. So, sorry for that. I have a little concern. There's something that Travel Doc knows, that is, Geneva always come up with a declaration, New York come up with a resolution. Two, given the situation where you want countries or parties to this instrument, ensure that they are implemented. A context from my country gave a picture that most of these instruments, it's almost like business as usual. From Geneva, New York, when they decorate these fine special packages, like this resolution or these declarations, they remain here, and civil society, because the whole bottom line now is civil society. How does it filter down with civil society, educational institution, tertiary institution, to ensure that these declarations are even implemented, monitored, guided? But we see another conflict of interest. Like in my country, most of these things, sometimes we get them through HREA email line. But it does not filter well with the very UN agency in those countries. We don't see much action taken by them, followed by the government, very poor limited action. Action not to carry people to court, but action to ensure that these things are given basic time, basic education, that they are at least put to work. But this is not the situation. So my question now is, what mechanism, a follow-up mechanism that can be put into place to ensure that at least when you come out with this declaration from Geneva, it go to those country state parties, followed by a UN agency, and how do they work with civil society, educational institution, and all tertiary institutions to ensure that these instruments are put to work? Thank you very much.
On va continuer avec une série de questions et nos deux orateurs répondront globalement. Oui.
Just in line with what my colleague said, I really like the. I'm from Eritrea. I work with UNICEF. I'm sorry. I really like the genesis of the background you've provided us, and some of our facilitators also guided us to see how the process is going on. But I want to ask you some questions that maybe you can throw more insight into. What was the political drive or gain that made Morocco to get engaged in this? My second question is that for 4 years, you had some pool countries that have worked effectively to get this declaration. In line with what Prof and the other speaker said, in order not to make this redundant, this same pool of countries, what have they done to facilitate implementation? I mean, where are we now? If you have made a success of having a declaration, and then, like what James said, I sat in meetings in where I'm a member of the UN at the field level, and where I see heads of agencies afraid to raise the issues around human rights. And being a human rights focal point, I had to persistently in every meeting ask them that this has to be that untouchable animal because of the context within which we are working. In some countries, it's something you can easily do, but in some countries, that the fragile countries. So my question is, what is the diplomatic circle, the state parties doing to ensure that the UN programs and funds are also, because if you look at the pillar of the UN, peace, security, human rights, most of the time you just forget about the human rights pillar. So I'm asking that, please, there is need for that. The last bit is to Prof. When he said, why are countries reluctant to accept some of the provisions of the human rights, the declarations and the treaties. I'll give you one major example. When the ILO convention was going to be passed on exploitation, harmful child labor in general, when it came to our president, because there was no engagement, sometimes it's top down, the first thing the parliament said was that the child labor ILO convention was against child socialization process in Africa. Then ILO came up with another one, convention on, I think it was harmful, or there is another one now that is hazardous. Hazardous exploitation of child labor or something. So I think the engagement with regional bodies will be very important. I know you're doing a lot of work, and I commend it. The human rights instruments are the major advocacy tool we are using for programming. But if the regional bodies are not engaged in Asia, in Middle East, or in Africa, you see, the ownership is not there. And so when it comes down, they just sign it politically for, let it go. But when it comes to implementation, it evaporates. So I really hope that when you have that political gain, there is still a follow-up with the civil society as well. We just don't pass declarations and then go to sleep. Honestly, nothing is being done after that. Thank you.
So, my name is Wang Wenyang. I'm from China. So I want to know, if people in country like China, they organize human rights education or organize, human rights education awareness events, they were arrested by Chinese government, where UN Human Rights Council can do something or not. For example, 4 years ago, a group of Chinese intellectuals and activists, in memorial of the launching of the Universal Declaration of Human Rights, the 60-year anniversary, of the Universal of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights. So the intellectuals, activists, launched the Chapter 8, a statement on human rights protection and democracy in China. So the person who drafted the Chapter 8 were arrested and later on sentenced to 11 years, where Human Rights Council, organized a special session on, these events. Yeah, yeah. So, so 2 years later, the gentleman won the Nobel Peace Prize. So Mr. Liu Xiaobo. But so why he was arrested? Just he organized a memorial event for the 60-year anniversary of the Universal Declaration on Human Rights. So that's very simple, yeah. Okay.
Je propose qu'on passe maintenant à une réponse globale. Et si on a encore un peu de temps, on prend d'autres questions. Mais je pense que déjà dans les réponses, ça va répondre à vos questions que vous allez nous poser. Donc on passe d'abord aux réponses de nos intervenants et après on verra. Donc,
tout d'abord, merci beaucoup pour les questions. Fort intéressantes. Alors, par quoi je commence? J'étais en train d'écrire tout. Je vais commencer par répondre ou plutôt réagir grosso modo d'abord à mon collègue, la présentation faite par mon collègue ici présent. Généralement, en tant que diplomate, c'est très difficile de trouver un moyen de satisfaire ou de réagir positivement, entièrement positivement à une déclaration généralement critique au travail à notre travail, le travail du pôle. Mais quand même, c'est grâce à ces déclarations qu'on peut approuver les choses. Mais une façon simple de réagir, c'est de répondre à chacun des points soulevés. Mais brièvement, pour pas prendre beaucoup de votre temps, La question humanitaire dans la déclaration, je pourrais dire oui, ça a été cité deux fois dans la déclaration. Dans l'article 7, il y a la question humanitaire, mais aussi dans le PP, le préambule, le paragraphe préambulaire 6. Donc ça a été cité quand même deux fois. Mais toujours on parle dans le cadre du consensus, hein. Il faut toujours garder dans l'esprit que il vaut mieux avoir un instrument que rien. Donc déjà avoir cette déclaration, c'est mille fois mieux que rien, hein. Ça, il faut garder ça dans l'esprit. C'était ça l'objectif ultime, parce qu'il y avait des lacunes. Imaginons la situation où il n'y avait même pas cette déclaration. Au moins, cette déclaration, elle reconnaît le droit à l'éducation, à la formation aux droits de l'homme. Maintenant, la question de l'implementation, la mise en œuvre de la déclaration, ça, c'est très, très, très... Je comprends, c'est très difficile, hein. Ça dépend de la volonté politique des pays, hein. On a soulevé ça. Ça dépend également des moyens, hein, et il y a aussi ça dans la déclaration. La question des selon les limites des ressources dont les pays disposent, mais c'est essentiel pour les pays, hein. Il faut garder dans la mémoire que les ressources financières disponibles dans un État X ne sont pas forcément les ressources disponibles dans un autre État. Donc il faut absolument la coopération internationale là-dessus. Mais pour satisfaire mon collègue et également répondre à quelques questions du Flore, c'est... Je peux souligner ici la question du rôle de la société civile, la volonté politique de chaque État. Si on travaille avec un État qui, par exemple, même s'il a montré sa bonne foi lors des négociations du texte, mais après on voit que dans la mise en œuvre il n'y a pas le respect, ben c'est normal, ça dépend de la volonté politique de chaque État. Si un État est ouvert et démocratique et transparent et inclut également la société civile, parce que là, je dis et je le répète, ça joue un grand rôle, hein. Là, je réponds à la question du collègue de Libéria, de la Libérie. L'État joue un rôle important dans la mise en œuvre de la déclaration. Il peut également, la société civile, hein, il faut des rassemblements, il faut les activités régulières de la part de la société civile pour diffuser le contenu de la déclaration. S'ils ont besoin de l'aide, de l'assistance, mais ils n'ont qu'à demander ça aux agences pertinentes. Mais il faut que la demande soit sur la table déjà, et il faut l'appui également de l'État. Pour la question du collègue de la Chine, j'ai en mémoire cette question-là. Mais c'est deux choses qui, certes, elles sont différentes, mais il y a un lien quand même. La question the question of the arrest of activists, human rights activists, the human rights activists. Ah, il faut juste parler. Oui. Je crois que c'est simultané. Désolée. Alors, s'il y avait une arrestation de l'activiste des droits de l'homme dans votre pays qui travaille dans le même cadre dont vous avez parlé. La seule façon de soulever cette question, je pense, c'est à travers l'examen périodique universel. Et c'est à travers l'examen périodique universel qui se tient trois fois par an dans le Conseil qu'on peut soulever toutes les questions généralement posées ici même par vous. C'est à travers cet examen que la société civile, hein, pourrait évoquer ou soulever ses questions, ses préoccupations. Et également soulever la question de la mise en œuvre, mais ou alors l'État lui-même, l'État examiné, hein, pourrait parler des avancées de la mise en œuvre de la déclaration. Quand on dit c'est quoi l'état actuel, l'état des lieux de la mise en œuvre, c'est, C'est propre à chaque État. Hein. Là, je réponds à la question de la collègue de l'Érythrée. Donc, c'est propre à chaque État. L'État examiné, par exemple, lors de l'examen périodique universel, c'est dans son rapport national présenté à tout le monde que, généralement, dans les premiers paragraphes du rapport national, c'est là où on mentionne le rôle de la société civile et son implication ou alors le rôle joué pour l'élaboration de ce rapport national. Et puis, dans les différents chapitres du rapport national, on évoque la question la mise en œuvre de la déclaration, entre autres, hein, de la déclaration des Nations Unies sur l'éducation, la formation, les droits de l'homme, soit sa mise en œuvre entière, partielle, ou alors l'implication de la société civile là-dedans. Donc, c'est à travers l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, ça répond à la question du collègue de la Chine, ça répond également à la question du collègue de la Libérie. Pour l'engagement du Maroc, là-dedans, alors la question c'était pourquoi le Maroc s'est engagé dans toute cette affaire, si je puis dire. Ah, tout simple. D'abord, le rôle qu'a joué le Maroc lors de la création du Conseil des droits de l'homme 2006. Donc, le rôle également du Maroc en tant qu'un des initiateurs de l'examen périodique universel lui-même. Donc, le rôle du Maroc également dans l'élaboration d'un grand nombre de résolutions. Si je cite par exemple la session de septembre, on était initiateur de deux, je crois, ou trois résolutions, mais on était inclus dans 8 résolutions. Donc, on joue un grand rôle au sein du Conseil des droits de l'homme et ça a à voir avec sa crédibilité. Donc, pour nous, c'était la question de l'éducation aux droits de l'homme. C'était une initiative qui a été initiée au sein de Genève avec les autres collègues du pôle et on devait assurer le suivi de cette initiative jusqu'à la fin, jusqu'à son adoption, soit au niveau du Conseil, mais aussi son adoption finale au sein de l'Assemblée générale. Donc, grosso modo, je pense que j'avais encore des réponses pour mon collègue, mais bon, je céderai la parole à mon collègue. Merci.
Merci. Moi, je réponds sur deux points. Il y a deux points qui m'intéressent. Non, d'abord un point de détail. C'était la première question. L'ami du Libéria disait, on parle à Genève de déclaration et aux Nations Unies de résolution. Résolution, c'est l'acte par lequel une organisation adopte un document qui va s'appeler charte, qui va s'appeler déclaration, qui va s'appeler qu'importe. Donc, c'est un peu comme une fusée. Vous avez qui emmène un satellite dans le ciel. La fusée s'appelle toujours résolution au sein des Nations Unies. Le satellite, il peut s'appeler Imarsat, Arabsat, etc., etc. Donc ça, c'est exactement ça. L'acte que votent les Nations Unies s'appelle résolution. Maintenant, ça peut porter un autre. Il emmène dans le ciel un autre mot. Deuxième question, c'est notre ami de l'Érythrée qui nous pose la question de savoir quel est le gain des États. Le gain politique des États, c'est tout simplement d'associer leur nom à un document. Par exemple, sur les institutions nationales, on parle de principe de Paris. On parle de la déclaration de Vienne, de la conférence de Vienne. C'est-à-dire, c'est un gain politique qui l'aide à devenir visible sur le plan international. Et le gain, c'est quoi? C'est d'apparaître, depuis que les droits de l'homme sont devenus, en gros, la valeur universelle, c'est de se poser en défenseur, en gros, des droits de l'homme. D'accord? Et donc, le Maroc a été à l'initiative de cette déclaration avec la Suisse. Sauf que j'ai ici un document. En 2006, le rapporteur spécial sur le droit à l'éducation a fait une visite au Maroc. du 27 novembre au 5 décembre 2006. Voilà ce qu'il dit sur l'éducation aux droits de l'homme au Maroc. Document officiel, je lis un extrait. Il constate, le rapporteur constate, avec préoccupation, que l'enseignement des droits de l'homme est souvent délégué à des associations locales et que le contenu et la qualité de cet enseignement ne sont pas contrôlés. Il continue. Dans le cadre de l'éducation civique, un ensemble confus de concepts, pas toujours conformes au droit international des droits de l'homme, est enseigné et désigné comme étant les droits de l'homme. Il a été en contact avec des associations, il continue également. La société civile marocaine dénonce vigoureusement les disparités entre dans le contenu et la qualité de l'enseignement relatif aux droits de l'homme. En outre, le rapporteur spécial souligne qu'il importe de veiller à ce que les droits de l'homme ne soient pas seulement enseignés comme une matière, mais qu'ils soient également intégrés au processus éducatif en tant qu'élément de la vie scolaire. Et il finit en appelant à poursuivre l'action contre les châtiments corporels. Document des Nations Unies, officiel, rapporteur, visite au Maroc en 2006 et sur la base des entretiens qu'il a eus avec la société civile. D'accord ? Et donc, c'est pas le cas spécifique du Maroc. C'est pas le cas spécifique du Maroc. Tous les États ont cette attitude duelle. Gagner en visibilité sur le plan international, mais en même temps, ne pas se préoccuper on va dire de manière sérieuse de l'effectivité des droits sur le terrain. Et je précise que j'ai strictement rien contre le Maroc parce que j'ai dit pire contre l'Algérie qui est mon pays. Donc il y a rien de personnel là-dedans. J'en viens maintenant à la question sur laquelle m'a répondu ma collègue, sur la question des ressources disponibles. Je m'explique. Quand il faut créer des écoles, payer des salaires, acheter du matériel, effectivement, la question des ressources se pose. Mais par contre, que 10% uniquement des enfants soient scolarisés, ou que ça soit 100%, il faut des programmes. D'accord ? Or, l'élaboration de ces programmes, qu'elle se fasse pour la totalité des enfants scolarisés ou une partie des enfants, elle doit se faire. Et ces programmes, donc le contenu de l'éducation, la présence de l'éducation aux droits de l'homme dans les écoles, c'est une obligation, elle ne dépend pas de ressources disponibles puisque les programmes sont faits. Et donc c'est pour ça que les États se cachent derrière cette question des ressources disponibles, justement pour éviter d'avoir des citoyens et continuer à avoir des administrés. Voilà, merci.
Non, on va arrêter les questions, mais Madame Moutchou va répondre quand même, et ensuite moi je vais conclure.
D'accord.
Il y avait une question, mais d'accord. Ben, une petite réaction oblige ici, donc quand même. Alors, merci pour les réponses. Je vais réagir à deux points. Le point de la visite du rapporteur spécial au Maroc en 2006. Tout d'abord, il faut savoir une chose, que je ne suis pas en train de vanter mon pays ou de dire que des belles choses. Hein. On a tous des problèmes dans nos pays, surtout les pays sous-développés, mais ou en développement. Mais quand même, il y a quelque chose que les autres pays applaudissent au Maroc et que ça a été écrit hein, dans les programmes des Nations Unies. C'est que c'est un pays ouvert. Hein. Ouvert à qui ? Aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Absolument. Si on avait quelque chose à cacher, on n'aurait pas invité ces rapporteurs déjà pour venir. Et c'est le cas de plusieurs pays. Hein. Il n'y a pas des invitations ouvertes. Hein. C'est restreint.
À commencer par l'Algérie.
Ben, nous, on a écrit ça clairement même dans notre rapport national. On est un pays ouvert à tous les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Qu'ils viennent, qu'ils rapportent, qu'ils écrivent et qu'ils diffusent et communiquent le rapport. Ça, c'est un. Alors, pour l'éducation et la formation en droit de l'homme, le rapport de 2006, il faut juste une petite clarification là-dessus. Déjà, le processus de la déclaration a commencé en 2006. La visite était en 2006 également. Donc, c'était encore dans les annales des Nations Unies. On n'a pas encore commencé tout le programme des Nations Unies. Peut-être que maintenant, s'il revient au Maroc, il trouvera que quand même les choses ont un petit peu avancé depuis 2006, parce que le processus de la déclaration déjà a commencé en 2006. Il n'a été adopté qu'en 2011. C'est tout à fait logique. Ça, c'est un. Alors, deuxième chose, juste pour la question, les États, ils se cachent derrière la question des ressources. Là, je ne vais pas parler en tant que diplomate, je vais parler en tant que citoyenne, mais c'est normal. Quand vous me dites, oh, il y a des programmes. Non, il y a des programmes. Mais comment on peut faire ces programmes? Il faut des réunions, il faut surtout une question qui est importante. La formation des formateurs. Hein. Ça a été dit dans la déclaration sur l'éducation et la formation des droits de l'homme. C'est dit clair. Mais il faut des programmes, d'accord? Tous les pays n'ont pas ces programmes déjà établis dans leur pays. C'est un nouveau programme, c'est une nouvelle façon d'éduquer les gens, hein, l'éducation aux droits de l'homme. Mais c'est dans ce cadre-là que vous êtes en train de faire ce séminaire, peut-être la formation des formateurs, j'applaudis ça, j'encourage. Mais ça vous a coûté quand même un petit peu pour faire ce séminaire. C'est pas gratuit, hein. Donc voilà, donc ça, ça fait partie des ressources, on a besoin de ces ressources-là, entre autres. Mais c'est vrai que je suis avec mon collègue. Quand il y a la volonté politique, hein, on peut surmonter tous les obstacles. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, et je termine avec cette bonne note positive.
Bien, ben merci. Alors, je vais remercier chaleureusement nos deux intervenants pour la clarté et puis l'esprit critique qu'il a d'avoir très bien cerné le sujet. Mais comme j'avais lancé une petite boutade en début, je vais quand même vous dire quels sont les pays qui étaient ouvertement contre. Vous n'entendez rien, madame. Vous n'étiez pas là.
Bouchez-vous
les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Alors, et je pense... d'abord, la Chine, évidemment, Pakistan, Russie. Et de façon générale, à part quelques exceptions, dont le Maroc, tous les pays membres de la conférence islamiste. À part certains pays africains, et comme le Sénégal et d'autres, de façon globale. Donc là, il y a eu des débats d'une extrême violence. Dans le cadre, après avoir donc travaillé 4 ans avec le comité consultatif, être parvenu à Marrakech avec un texte, mais vraiment très, très, très... même pédagogique, lorsque le groupe de travail intergouvernemental s'est réuni, moi je peux vous donner, pour y avoir suivi les 3 réunions qu'ils ont eues avec d'autres ONG, vous aviez de véritables hystéries, ils appelaient leur capitale en disant « si ce mot-là passe, j'appelle mon gouvernement, je quitte le groupe ». Ça a été d'une terrible violence. Donc, d'où la difficulté aussi du Maroc et de la Suisse qui voulaient aboutir à un texte. Moi, je n'ai jamais vu ça, et c'est là où on voit que la question de l'éducation est éminemment politique, comme l'a bien rappelé Ramnan. On touche un sujet là, d'une sensibilité. Mais il n'y avait pas que les pays comme la Chine, comme la Russie, ou l'Asie, hein. De façon globale, l'Asie était contre. Il y avait aussi le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, et étaient contre au sujet de l'article 1er, hein, parce qu'ils ne voulaient pas d'un droit à l'éducation aux droits de l'homme. Alors là, les Occidentaux, ces pays occidentaux qui étaient contre, disaient c'est pour des questions financières. Bon, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Comme on a dit, je ne veux pas reprendre le débat... pour nous, il n'est pas question d'une éducation aux droits de l'homme. Ça ne nécessite pas plus de moyens d'avoir des contenus d'éducation qui respectent les autres. Voilà. C'est juste pour vous dire que ça a été, comme vous l'avez dit, le premier texte, le premier instrument qui a été adopté par le Conseil, mais que ça a été éminemment très difficile et que derrière, les États avaient également peur de voir, comme l'a dit Ramdan, surgir une convention. Parce qu'ici, il fallait négocier maintenant une convention, ça serait une véritable horreur. Donc les pays occidentaux étaient aussi contre, ils avaient donc peur de voir l'aboutissement d'une convention. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire. Je vous remercie encore et bonne pause.